Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Soyez les bienvenus sur cette libre antenne du samedi soir. Venez partager avec nous 2 heures de liberté, d'échange et de partage. Venez prendre le temps de faire le point sur un domaine de votre vie qui vous pose problème. Vous savez qu'en parler quelquefois, c'est déjà le premier pas vers un changement. Quel que soit notre passé, quelle que soit la manière dont nous nous avons construit notre vie ou que d'autres l'ont construite pour nous, demain reste une feuille blanche. Que l'on ait 20 ans, 40 ans ou 80 ans, que le temps qui nous reste à vivre sur cette terre se chiffre en décennies, en années ou en mois, chacun a encore la possibilité d'écrire son lendemain. Et c'est signé Alain Orceau, auteur du très beau livre « Prendre sa vie en main ». Alors avant de commencer à écrire demain, venez me parler d'hier et d'aujourd'hui. Venez me parler de vous et de votre vie. Pour prendre la parole, c'est facile, vous faites le 39-21, vous tomberez sur Estelle et sur Maxime qui vous guideront jusqu'à moi. Si vous avez envie de participer par SMS, comme chaque soir, de réagir à ce qui se dit, d'apporter un soutien ou une idée, vous tapez le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message et de votre prénom. Enfin, pour entrer en contact avec nous par mail, c'est à libreantenne@europe1.fr. Tout le monde est là ce soir encore pour vous recevoir au mieux, Estelle et Maxime donc au standard, Fabrice Fougerouz à la réalisation et moi bien sûr qui attend vos appels à partir de maintenant. Et je souhaite aussi la bienvenue à Théo qui vient renforcer notre équipe.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et ma question pour mieux vous connaître ce soir est la suivante. Si demain vous pouviez choisir une nouvelle vie, vous aimeriez la passer à faire quoi, cette nouvelle vie? Répondez-moi par SMS au 739-21, suivi du mot nuit et de votre réponse. À tout de suite. Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Janie. Bonsoir à vous, Janie.
Oui, bonsoir Sabine.
Et oui, Janie est un prénom masculin, je découvre ça avec vous ce soir.
Eh oui, tout arrive.
Bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Janie?
Bien, c'est un peu, c'est à la fois simple et compliqué, mais je suis en plein dedans, là, c'est au moment où je vous parle. Voilà, je vais être très sincère. J'ai 52 ans, même si j'en parais beaucoup moins. Et sur Internet, dans un processus qui n'est pas typiquement un processus de rencontre, hein, sur un site, je poste des papiers, des articles, et une demoiselle m'a contacté en me disant « j'aimerais bien avoir une correspondance avec vous ». J'ai dit « pourquoi pas ?». Puis très vite, il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc j'ai un peu, comment dirais-je, je vais être clair, évidemment, j'ai essayé de la séduire. Elle me disait qu'elle avait 34 ans, donc relativement jeune. Ensuite, elle me racontait sa vie, qu'elle avait beaucoup souffert, ce qui entraînait une compassion énorme chez moi. Et je vous explique en fait en quelques mots. Moi, à la base, même si je ne le dis pas, j'ai un secret espoir, c'est de rencontrer ce que j'appellerais ma muse. C'est à la fois très fou et très simple. C'est que, en dépit de ce contexte sanitaire de confinement, de fermeture de salles, moi je suis comédien et j'ai décidé depuis peu de temps, 1 an et demi, 2 ans, de faire essentiellement du seul en scène, mais pas du comique, plutôt l'inverse même, à partir de textes poétiques, essentiellement du 19e siècle, faire un mélange de textes avec mes mots à moi et créer quelque chose.
D'accord. Et... juste que je comprenne votre récit, sentimentalement, vous en étiez où quand vous avez rencontré cette jeune femme?
J'en étais nulle part, si j'ose dire. C'est-à-dire que par rapport à mon processus créatif, vous voulez dire?
Non,
ma vie en général.
Non, votre vie amoureuse, est-ce que vous étiez disponible ou mariée?
Ah oui, complètement. Je suis séparé de la mère de mon enfant depuis très exactement, attendez, 5 ans, voilà, c'est ça,
d'accord,
à peu près, 5 ans. Depuis 5 ans, j'ai pas eu de véritable histoire d'amour, des choses sans importance et même et même pas très saine au final. Mais une vie amoureuse, non, je n'en ai plus depuis 5 ans.
Est-ce que c'est une rupture qui a été demandée par vous ou par elle ?
Par mon ex, vous voulez dire ?
Oui.
Non, on va dire les choses comme elles sont. C'est elle qui a pris l'initiative de la rupture.
D'accord, donc
mais
vous
la
avez
situation.
Subi,
ouais, voilà, peut-être que j'étais là, je ne sais pas. La situation n'était pas bonne depuis de longs mois. Mmh. Et j'avais envie de rompre, en fait, mais j'avais peur. J'avais peur de faire une bêtise. Et jusqu'au jour où c'est devenu irréversible.
D'accord.
Et en fait, c'est pas ce que je reprochais, mais ce qui me manquait, la carence que j'avais avec cette femme, c'est que, donc j'ai un tempérament artistique, hein, pour mon plus grand malheur, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être aimé, un peu comme les enfants, quelque part, besoin d'être rassuré, sur mon art notamment. Et au début d'ailleurs, quand je la connaissais, je répétais des textes, et elle aimait. Et puis il y a eu la naissance de notre enfant, il y a eu un revirement de comportement, un changement complet d'attitude par rapport à moi, c'est-à-dire qu'elle était... C'est cruel, j'allais dire, l'enfant en quelque chose prenait ma place. Mm-hmm. J'ai jamais eu de problème avec mon enfant, en demeurant, hein, c'est-à-dire que je ne lui ai jamais fait payer ce genre de choses. Mon enfant, il ne vit pas avec moi, il vit avec elle, mais il m'a appris ce que c'était que l'amour. Je veux dire l'amour, le don absolu,
oui.
Inconditionnel, oblatif, tout ça. Mm. Il l'a appris, définitivement.
Mais concrètement, il a pris une place qui, pour vous, était importante.
Dans ma vie à moi, vous voulez dire ?
Non, par rapport à votre femme. Mm. Il vous a un peu poussé en arrière.
Il m'a poussé vers la sortie, en quelque sorte.
Oui. Mm.
Et depuis... parce que c'est ça, vous voyez, ce soir, j'ai envie d'être totalement transparent. C'est-à-dire que je suis pas là pour me faire passer pour ce que je suis pas. Même la sincérité la chose qui rapporte le plus sur toute une vie. Et j'en suis là. J'étais quelqu'un de profondément sentimental quand j'étais jeune, à 18-20 ans. Après, j'avais l'impression que je l'étais plus parce que d'abord j'étais passionné par la philosophie, des choses comme ça. J'avais beaucoup réfléchi et j'étais devenu un peu cynique quelque part. Et puis, depuis peu de temps, à la fin de la quarantaine, je me suis aperçu que rien n'était plus vrai, authentique que les sentiments. Mmh. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sentiments dans la vie, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Puis je travaille là-dessus en tant que comédien.
Avec vos textes,
d'ailleurs,
bien sûr.
Voilà, puis c'est le mot, c'est le jargon d'ailleurs. On travaille une situation dramatique et un sentiment, le sentiment d'un personnage. Mmh. Et... On rejoint l'idée du mentir vrai, cher aux écrivains. On ne ment pas, on dit qui on est à travers les mots de l'autre. Mais
d'accord.
Si on ne dit pas qui on est, ça ne marche pas.
Donc je comprends mieux le contexte dans lequel vous avez rencontré cette jeune femme qui vous a admiré en plus sur le plan professionnel et artistique.
Oui,
donc vous avez glissé
très
vite vers la séduction. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Ben, comme je vous l'exprimais, moi j'ai beaucoup de compassion. C'est une jeune femme qui... Je vais planter le décor, si j'ose dire, parce que c'est très important. Puis dans mon histoire aussi. C'est une jeune personne dont les parents sont maghrébins d'origine. Elle est née en France. Elle ne parle que le français. Elle n'a pas appris l'arabe. Mm-hmm. Je veux dire que ça exprime sa volonté de d'être française, si j'ose dire, d'assumer une culture quelque part. Parce qu'elle est très littéraire, très attirée par la littérature, la poésie, ce que j'appellerais la beauté, comme moi, puisque je mets ça en avant, la beauté dans les arts plastiques, etc., la musique, tout ça. Et très rapidement, elle m'a parlé aussi de qu'elle avait eu une enfance battue, en quelque sorte. Que son père était violent physiquement, sa mère, elle était plutôt passive, mais... Enfin, j'ai même pas envie de donner des forces détails, parce que je trouverais ça presque indécent. Mais c'est très, 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 très pesant.
Elle avait souffert, en tout cas.
Oui. Mmh. Oui, beaucoup. Et... Donc, j'ai eu de... Moi, dans une vie antérieure, si j'ose dire, j'étais formateur, hein. Donc, j'ai été formé à ce qu'on appelle la relation d'aide. J'ai intégré tous les fondamentaux de la matière. Donc j'ai été, je n'ai pas joué au psy, hein, sûrement pas, mais bon, j'étais dans l'empathie la plus absolue, l'écoute active. Et puis surtout, elle a 34 ans, elle est, je cite, coordinatrice pédagogique dans des crèches, elle est diplômée en psychologie de l'enfant, et très vite, je lui ai dit, mais tu ne pouvais pas aller plus loin. Et elle m'a dit, je ne veux pas citer des choses importantes, mais elle était prise à l'Institut René Descartes à Paris, qui est un institut très important, et elle avait démissionné très rapidement pour X raisons, manque de motivation, fatigue mentale, je ne sais trop quoi. Et moi, je lui ai dit, c'est peut-être un peu dommage quand même, parce que quand je t'entends, il y a une force en toi, une grande force, et puis beaucoup de culture aussi. Et moi-même, ayant arrêté des études d'avocat il y a plus de 20-30 ans maintenant, pour des raisons en quelque sorte similaires à la sienne, je sais de quoi je parle, et comme elle est jeune. Donc je l'ai encouragée, je lui disais, en 2021, toi, tu vas reprendre tes études, tu trouveras une solution, à mi-temps, en formation continue. Et moi, je vais me battre pour trouver une salle, en dépit d'ailleurs du contexte. Et puis, tu vas m'aider à répéter. C'est venu très rapidement. Mmh. Et moi, j'ai répété mon spectacle. Ça fait 5 ans quand même que j'y travaille dessus, à fond. Et je ne l'ai jamais répété. D'autant que je n'ai pas envie d'être mis en scène par quelqu'un d'autre que moi.
Pardon, non, on s'éloigne de votre histoire de sentiments, là.
Oui, bien sûr, c'est vrai, mais en fait, pas vraiment, puisque très vite, elle est devenue la personne qui m'a écouté au téléphone où je lui donnais mon texte. Je répétais mon texte sans note.
Pourquoi que au téléphone?
Parce qu'on ne pouvait pas se voir en vrai.
Pourquoi?
J'habite à Paris, elle aussi, enfin, elle n'est pas à Paris, en fait, elle est quelque part dans la Grande Couronne. Et moi, j'étais en région, confiné, j'ai choisi de me confiner en région, je suis resté un peu plus longtemps, et depuis à peu près, quoi, le 1er novembre ou 2 novembre, je ne sais pas, jusqu'à à peu près maintenant, on a eu des relations que téléphoniques, mais très, très, donc très puissantes, entre les vidéos, les textos, on passait 3-4 heures quotidienne au téléphone, la nuit essentiellement.
Mais vous ne l'avez jamais rencontré?
Non, on devait se rencontrer aujourd'hui.
Et
tout avait été, je vais vous expliquer, tout avait été posé aujourd'hui. On devait regarder un film ensemble que je lui avais proposé, je devais répéter justement physiquement avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, il y a 4 jours je crois, j'ai pété les plombs, bêtement. J'ai été pris par un sentiment un peu paranoïaque de jalousie. Elle a un ami que je n'ai jamais vu, et pour cause, qui a 72 ans. Un peu mondain, apparemment. Et cet ami, ça fait 3 ans qu'elle connaît. Et je lui avais fait dire qu'en fait, il avait tenté sa chance avec elle, une fois. Donc, c'était resté au creux de ma mémoire, cette affaire. Et au téléphone, l'autre fois, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche, c'est l'émotion, je ne sais pas. Peut-être le trac, finalement, mais surtout l'émotion. Il y a 3-4 jours, donc tout était verrouillé, si j'ose dire. Le mot n'est pas très élégant, je dois le reconnaître, mais je l'assume. Elle a fait une allusion complètement involontaire parce que je lui disais, tu sais, notre relation, elle est un peu fantomatique, même s'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'agit maintenant d'actualiser ce qui était dans le non présentiel.
De concrétiser
non présentiel.
Un peu
les choses.
Ben oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et puis, elle m'a dit, oui, on m'a dit ça. Et moi, j'ai dit, qui c'est son... Puis, j'ai compris que c'était son ami. Et j'ai commencé à lui dire, mais tu sais, c'est un con, on dit ça en général. Et puis, elle répondait pas trop. Et là, je me suis senti m'emballer dans un mauvais processus que j'ai pas du tout maîtrisé. Je lui ai dit, je vais faire court, hein, j'en suis venu à lui dire, mais de toute façon, j'ai l'impression que toi, t'es attiré par les très vieux. Hein. Moi encore, je suis pas assez vieux, t'es plutôt très vieux, troisième âge, et te faire entretenir. Et là, j'ai entendu sa voix se décomposer, mais littéralement, hein, se décomposer. Et en substance, elle m'a dit... elle m'a pas dit, tu viens de me détruire, mais c'est ce que j'ai entendu avec l'intonation de sa voix. Et elle a raccroché au nez, et plus moyen de la joindre.
Oui.
Et là, je me suis dit, J'ai dû toucher une blessure profonde. Et...
Si je peux me permettre, Yannis, c'est chez vous qu'il y a une blessure profonde qui a été réveillée, là.
Oui.
Et oui.
Moi, je veux dire, depuis ce jour-là, vous voyez, c'est pour ça que ce soit, même si ça n'a pas l'air, j'ai encore ce symptôme de bouche sèche, mais j'ai passé 3 nuits avec des sédatifs. La première nuit, je n'ai même pas dormi, même pas fermé l'œil. Mmh. Des crises d'angoisse, des à quoi bon, des... je vous passe pas toute la litanie de ce sentiment, quoi, de cette impression terrible. Là, ce soir, je me suis un peu calmé, puis d'autant, je vais vous donner une information, c'est que tout à l'heure, je l'ai senti en plus très fort, j'ai enregistré un son sur mon téléphone que je lui ai envoyé par mail, où j'ai en quelque sorte repris mon spectacle, des phrases de mon spectacle, hyper personnalisé à elle, mais là vraiment pour lui faire un show, quoi, en lui disant tu es ma muse, mon spectacle sans toi il n'a aucune raison d'être, je ne pourrais jamais faire mon spectacle sans toi parce que tu es ma source, ma ressource.
Mais le problème n'est pas là, Jeannie, parce que vous recommencerez à la première occasion. Le problème, c'est pas elle et c'est pas votre relation, c'est vous avez une grosse blessure d'amour. Alors je ne sais pas quelle a été votre enfance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon chez vous, et comme beaucoup d'artistes, oui. Vous avez désespérément besoin, oui, qu'on vous aime. Et c'est tant mieux, mais il va falloir apprendre à gérer ça. Vous ne pouvez pas faire payer aux autres cette blessure qui est la vôtre. Et cette blessure-là, beaucoup d'artistes la compensent justement par l'art et la création, mais aussi souvent en cherchant chez l'autre cette reconnaissance, cet amour-là. Et c'est très dangereux de faire ça, c'est très fragile de faire ça, parce que si l'autre porte son attention... vers quelqu'un d'autre, alors comme vous dites, on pète les plombs. Mmh. Et cette blessure-là, chez vous, il faut d'abord la cicatriser avant de pouvoir construire quelque chose de sain avec quelqu'un d'autre.
Oui, c'est clair. Je suis le premier à dire, sans faire de la psychologie de bazar, que j'ai une personnalité abandonnique. Ça, je le sais. J'ai une enfance carencée. J'ai été, j'allais dire, mal aimé, pas aimé comme j'aurais dû être aimé.
Mais oui, bien sûr.
Donc ça, je le sais.
Mais ce lien-là qui vous manque, et je l'explique souvent sur cette libre antenne, il faut le construire entre vous et vous. Cet amour-là pour le petit garçon que vous étiez, c'est à vous de vous la porter. Cette blessure-là, c'est à vous de la cicatriser, c'est pas à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous allez repartir en mode séduction avec vos plus beaux atouts pour la séduire, elle ou une autre, parce que vous avez besoin de ça, et puis dès qu'il y aura une faille, vous allez être tellement malheureux que vous allez à nouveau exploser.
Le problème, voyez-vous, c'est que, et je ne suis pas du tout dans quelque chose de tordu, hein, franchement, c'est que je ne peux pas vivre sans femme. Je ne peux pas. Et je sais être exclusif, hein, je veux dire, je suis pas un donjon sur le retour, mais je ne peux pas. D'abord, mon modèle d'inspiration, je suis un passionné d'histoire de l'art, je veux dire, la beauté de la femme, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit l'élan de sa personnalité, son mouvement... moi, je fais l'éloge de la femme. D'ailleurs, je passe souvent pour l'anti-macho, quoi. Ou voilà, je suis. Enfin, c'est pas le sujet de ce soir.
Non, c'est très bien et c'est très artistique aussi dans la démarche. Le problème, il n'est pas là. Il est que vous avez besoin absolument d'être aimé et d'être admiré. Et quand on est dans le besoin, on est forcément dans la dépendance et donc dans la souffrance. Le jour où vous aurez juste envie qu'on vous aime et qu'on vous admire, alors vous serez libre.
Oui, aime-toi toi-même, d'abord. Je comprends bien. Est-ce que je peux vous lire, mais très rapidement, le mail qu'elle m'a fait tout à l'heure, je le comprends et je ne le comprends pas. Est-ce que je peux très rapidement vous en donner la tournure et avoir votre point de vue ?
Je ne me rends pas compte, c'est un mail de combien de lignes ?
Non, il fait une petite page, mais je ne vais pas le lire en entier. Je vais faire des. C'est parce que je ne comprends pas, en fait.
Voilà, allez-y, on va voir si ça a un intérêt. Allez-y.
Voilà, si vous pensez que ce n'est pas utile, vous m'arrêtez et je m'arrêterai, j'en serai pas froissé. Donc, elle me dit, donc, mon très cher, etc., bien que cela soit extrêmement pénible pour moi, je t'écris afin que cesse cette torture pour toi, pour moi, pour nous. Donc je vais être simple et direct, je suis profondément désolé et triste que les choses aient pris cette tournure. C'est cet événement, ce que je viens de parler, qui a fait pencher la balance. Tes propos m'ont profondément blessé lorsque tu me parles avec sarcasme de ma situation. ces phrases tournent en boucle dans ma tête me rappellent ce. C'est là où ça devient bizarre. C'est-à-dire que là, jusque-là, tout va bien et elle a raison. Mais là, elle me dit quelque chose qui est complètement fou. Ces phrases tournent en boucle dans ma tête et me rappellent ce que je sais déjà au fond de moi, à savoir que je ne suis pas digne d'être aimé, voilà tout. Mmh. Oui, je resterai probablement seul, tant pis pour moi. Je te demande sincèrement pardon pour toutes ces souffrances et pour tout ce temps perdu à cause de moi. Je jure que je ne voulais pas te faire de mal, pardonne-moi, nanana. Et dans l'état actuel des choses, je ne peux pas revenir, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, ça veut dire qu'elle laisse la porte ouverte, je ne comprends pas. Et je sais que je ne serai jamais celle que tu attends. Je te demanderai une seule chose, s'il te plaît, ne te fais pas de mal. Je te l'ai déjà dit, je n'en vaux pas la peine.
D'accord, ça me suffit. Effectivement, il y a quelque chose de très intéressant, ce que je comprends là, c'est que ce sont deux blessures profondes qui se sont heurtées.
C'est
la vôtre qui est cette blessure d'abandon, et elle, je pense qu'elle a une blessure d'humiliation. D'abord parce que l'enfance que vous m'avez décrite, tout simplement, et parce que vous savez que ces jeunes femmes sont très souvent accusées de ça. On les accuse très très souvent de chercher l'argent chez les hommes plus âgés. Et que je pense que cette humiliation, elle a déjà dû l'entendre et déjà dû la subir. Et cette humiliation qui a dû se superposer à tout ce qu'elle a vécu comme autre humiliation dans son enfance, ça crée une c'est même plus une blessure, c'est un gouffre chez elle. Et vos deux blessures se sont télescopées complètement, d'où la violence de la rupture. Et c'est là où elle a raison, vous n'êtes prêts ni l'un ni l'autre à avoir une relation sereine.
C'est terrible parce qu'en fait, on s'est retrouvé très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, en quelque chose qui ressemble à de la fusion. Et en même temps, il y a un effet de miroir qui se renvoie.
Exactement. La fusion, c'est quand on a l'impression que l'autre va pouvoir soigner sa blessure. Et d'un seul coup, l'autre devient indispensable. Mais on est tellement fragile que ça éclate, effectivement, à la premier faux pas, comme ça a été le cas. Et là, on se rend compte qu'on était beaucoup plus dans une relation de besoin que d'envie. Et c'est pas bon. C'est là où l'un et l'autre, vous avez un chemin à faire, chacun de votre côté d'abord, pour vous soigner. Réparer ces blessures-là pour ne plus être dans cette dépendance par rapport à l'autre.
Ce qu'il y a de terrible, c'est que je vis ça comme une tragédie. Il n'y a pas mort de personne. Mais moi, ce que je lui disais, c'est que j'avais l'impression, j'ai toujours l'impression, que cette femme, c'est mon unique, quoi. C'est la femme de ma vie. Je sais que ce sont des formules un peu surfaites aujourd'hui. Mais je veux dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de qui je me sentais si proche, sans parler de sa beauté plastique, évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Puis sa façon de me parler, de ce qu'elle m'inspirait, ce que je me suis entendu lui dire. Et puis surtout, cette cristallisation qu'elle a opérée à son insu de mon travail artistique. Je veux dire, j'en reviens pas parce que depuis un an et depuis le premier confinement, je pouvais plus rien faire. Ça marchait plus en fait, c'est le cas de le dire. Plus rien ne marchait, les mots ne s'agençaient plus. Et puis là, j'ai commencé à lui dire ça au téléphone, au début de manière impromptue, si j'ose dire. C'est-à-dire que le but n'était pas de lui proférer mon texte.
Non, j'ai bien compris, Jenny, vous m'avez raconté en détail comment ça a commencé. Oui. J'ai bien compris, mais vous êtes chacun en déséquilibre et vous avez cru que l'autre allait vous rééquilibrer alors qu'à l'inverse, vous êtes cassé la figure tous les deux. Et donc, une
mais
fois de plus, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler vraiment sur vous et de réparer, de soigner cette blessure-là.
Mais je fais quoi maintenant, je veux dire, concrètement, voyez. Là, tout à l'heure, je m'excuse de vous dire une chose aussi stupide, mais c'est la vérité. Quand votre assistant, Maxime, hein, c'est ça, je ne me souviens plus, je m'excuse d'ailleurs, m'a appelé tout à l'heure à 23h pile, je ne m'y attendais plus à ce qu'il m'appelle, moi. Hein. J'étais dans mes schémas mentaux et j'étais en train d'essayer de la joindre. Et de lui laisser des messages. Et je me suis dit, c'est la plus belle des façons de la faire partir, de l'écœurer. Et pourtant, c'est plus fort que moi, je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas me retenir. Il suffirait que j'entende sa voix pour être soulagé. Donc je suis... Il y a de la dépendance, hein, par définition.
Il y a une grosse dépendance. Et attention, une fois encore, de ne pas vous accrocher à l'histoire que vous vous racontez plutôt qu'à la réalité. Déjà, chez le commun des mortels, c'est fréquent, mais alors chez un artiste, c'est puissance 10. Attention de ne pas tomber amoureux de l'histoire plutôt que d'elle.
De l'histoire, de l'image et de tous les artefacts, si j'ose dire.
Et de ce que vous avez probablement inconsciemment espéré qu'elle vienne réparer chez vous, alors que ça n'est pas son rôle.
Et qu'est-ce que je dois faire par rapport à elle? Faire un deuil définitif?
Non, je ne pense pas qu'on en soit un deuil définitif, mais déjà prendre du recul et vous occuper d'abord de vous. Et il faudrait qu'elle en fasse autant de son côté. Parce que le jour où vous serez plus solide de ce côté, sur ce côté-là, d'amour pour vous-même, vous ne serez plus dans une dépendance pareille et vous n'aurez plus à réagir, à surréagir. Quand elle se confie à un ami, elle a le droit de se confier à qui elle veut, comme elle veut.
Bien sûr, c'est
la partie de vous blessée qui réagit. Et cette partie de vous, tant que vous n'allez pas la soigner, elle va réagir comme ça à chaque fois, donc ça sera sans fin.
Mais ça veut dire quoi? Que tant que j'aurai pas soigné ça, guéri ça, interdit, je m'entends, je peux pas avoir d'histoire d'amour réelle.
Vous pouvez tout ce que vous voulez, mais vous risquez de recommencer les mêmes schémas.
Vous savez, j'entends bien.
Quand on ne change rien, rien ne change.
Ça
cogite, là.
Ouais, c'est ça, ça cogite, parce que je suis dans des questions très, très, très archaïques. Je me dis, mais est-ce qu'elle va revenir vers moi? J'avais l'impression de parler à une voyante, vous voyez, c'est complètement absurde et crétin même. Mais est-ce qu'elle va revenir?
Il y a plein de parties en vous qui ne sont pas d'accord entre elles et qui se battent là en ce moment. Mais la partie la plus importante, c'est celle qui est blessée. C'est de cette partie-là qu'il fallait s'occuper. Après, il y a l'ego, après, il y a plein de choses, mais c'est d'abord ça.
Parce que vous savez, je ne tombe pas amoureux facilement, quoi. Mais vraiment pas facilement.
Oui, mais si vous tombez amoureux et que vous détruisez ça parce que vous êtes tellement dans un besoin d'être rassuré tout le temps, c'est pas une bonne solution. Que ce soit avec elle ou avec une autre, vous allez reproduire le même schéma.
Imaginez qu'elle nous entende en ce moment, ça serait une bonne chose ou pas?
Alors là, pour le coup, je pense que oui.
Parce qu'il y a les podcasts,
pas dans l'idée, oui, je vous vois venir, pas dans l'idée de la manipuler pour la faire revenir. Dans l'idée qu'elle comprenne que vous avez chacun des blessures à soigner d'abord, avant de vous faire du mal tous les deux. Je vais vous laisser réfléchir à ça, Janie, parce que j'ai beaucoup de gens qui attendent ce soir.
Oui, j'entends bien, c'est normal. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie infiniment de vos précieuses précieuse écoute et de vos précieuses préconisations. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter dans votre émission.
C'est gentil. Et si tout ça résonne en vous, vous allez voir que dans les jours qui viennent, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez comprendre des choses, vous allez mettre en place des choses et vous allez peut-être faire bouger les lignes un petit peu.
Merci encore.
Avec plaisir, Janie.
Au revoir, Sabine.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et je vais faire maintenant la connaissance d'Élise. Bonsoir à vous, Élise.
Bonsoir. Bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci. Je suis sur les faits de l'émotion, là. Donc, je vais avoir du mal un peu à vous raconter.
Je vous aiderai. Prenez le temps, tout va bien.
D'accord.
Je me pousse, je vous fais une petite place dans ce studio et je vous prépare un bon thé, d'accord?
C'est gentil, merci beaucoup.
Et je vous écoute.
Donc, mon mari est dans une EHPAD depuis le mois de septembre.
Oui.
D'accord, j'avais le droit de voir mon mari pratiquement 3 fois par semaine.
Malgré le confinement?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Donc j'avais le droit de le voir. Et je vais être bref. Et aujourd'hui, toute la semaine dernière, je n'ai pas pu le voir parce que je n'avais pas pris le rendez-vous à temps.
Ah, donc, c'est sur rendez-vous uniquement maintenant?
C'est sur rendez-vous.
D'accord.
Donc je n'ai pas pris le rendez-vous cette semaine-là. Donc j'ai eu le droit aujourd'hui. On m'a appelé à 3h en me disant d'avancer mon rendez-vous pour 4h au lieu de 5h. J'ai dit, il n'y a aucun problème, j'arrive. Donc j'ai eu du mal à sortir la voiture parce que je suis toute seule. Donc j'ai sorti la voiture du parking.
Oui, c'est vrai. Vous êtes dans quel département?
Dans les Hauts-de-Seine.
Il y avait beaucoup de neige.
J'avais beaucoup de neige. Je ne savais pas si je devais aller à pied. Il s'est mis à pleuvoir. Donc bon, j'ai pris. Ça va être bref. J'ai pris la voiture et je suis partie les voir. Arrivée dans l'EHPAD, le directeur est descendu de l'ascenseur. Il m'a dit, écoutez, madame, vous ne pourrez pas voir votre mari aujourd'hui.
Pourquoi ils vous ont appelé alors?
Attendez, voilà, justement. Alors attendez, je lui dis, non, mais il n'est pas question que je ne vois pas mon mari. Il n'est pas du tout question. Déjà une fois, je n'ai pas pu venir, j'étais malade. Mon fils a voulu voir mon mari. On lui a dit, mais non, écoutez, il n'est pas... Il ne peut pas descendre aujourd'hui parce que on se reçoit, il descend mon mari, on est à l'accueil dans un restaurant, dans une salle. Donc mon fils n'a pas pris, il a dit bon ben il n'a pas insisté, il a dit ok si je peux pas voir mon père, je ne pourrai pas le voir, il est reparti. Mm-hmm. Et j'étais malade quoi, j'étais fatiguée, j'ai envoyé mon fils à la place, à prendre la place. Et on n'a pas descendu mon mari. Ça j'ai pas trouvé ça anormal. J'ai téléphoné le lendemain, on m'a dit, écoutez, si j'étais pas bien. Je dis, mais attendez, je comprends pas. Chaque fois que je viens, il descend. Pourquoi vous n'avez pas descendu mon mari pour voir mon fils? Il m'a dit, bah, écoutez, il n'était pas bien. OK. Mais aujourd'hui, le directeur ne voulait pas que je monte, voulait pas me faire descendre mon mari. Je lui ai dit, non, je ne sortirai pas de l'EHPAD tant que je n'ai pas vu mon mari.
Quelle raison il vous a donné aujourd'hui?
Ben, il m'a raison que mon mari ne pouvait pas descendre.
Oui, mais.
Qu'il était fatigué.
Encore une
fois. Il n'est pas bien. Je lui ai dit, mais attendez, s'il n'est pas bien, justement, s'il lui arrive quelque chose dans la nuit, vous imaginez? Vous imaginez? Il m'a dit, bon, ben, j'ai tellement crié, je me suis tellement énervée, j'ai ces antidépresseurs, donc je me suis énervée, je n'ai pas pu me contrôler, qu'il m'a dit, bon, écoutez, madame, exceptionnellement, on va vous faire monter à l'étage. Mm-hmm. Bon, ben, alors, il m'a accompagnée, parce qu'évidemment, tous les étages ont droit, la famille a le droit de monter dans tous les étages, sauf le niveau de mon mari d'Alzheimer. Sous prétexte de protocole. J'ai dit, attendez, votre protocole, mais attendez, c'est quoi ça? Le protocole, uniquement le niveau d'Alzheimer, vous ne laissez pas monter, alors que le microbe, il est partout. Puisque je vois les familles rentrent avec les enfants, ils montent voir les parents au 4e, 5e, il y a 6 étages.
Voilà. Ça paraît curieux, effectivement.
Vous imaginez? Voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Parce
plus pour une question de sécurité?
Non, voilà, c'est pas ça. Non, pourquoi les autres étages, les familles ont le droit de monter?
Bah, peut-être parce qu'avec les malades d'Alzheimer, il y a des risques de.
Mais attendez, mais s'ils me mettent dans la chambre de mon mari, il n'est pas agressif, rien du tout. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai tellement insisté le directeur m'a accompagné au 2e étage. Donc, évidemment, il est dans le couloir, mon mari, il y avait quelqu'un qui le tenait. Bon, il tient pas, ils me l'ont complètement détraqué. Ils me l'ont complètement shooté. En espèce, toutes les semaines, chaque fois que je vais, il est complètement shooté, mon mari. Il tient, de toute façon, je pense que je vais le récupérer. Ça fait deux EHPAD que je change. Mais là, j'en peux plus. Là. Je pense que je vais le garder chez moi. Là, c'est pas possible. Je vais aller lundi à la mairie pour pouvoir demander de l'aide, pour l'avoir à la maison. Moi, j'ai 69 ans. Je sais que j'ai pas la force. J'ai fait à peine 47 kilos. Je sais que j'aurai pas la force, mais je vais prendre quelqu'un. Je pourrais pas accepter. On a 30 ans de mariage et de le voir comme ça, c'est une catastrophe. Comment il le traite, c'est incroyable. Il ne laisse pas monter, donc ils me font monter au 2e étage. Je me suis aperçue. Vous imaginez, Sabine? Je me suis aperçue que c'était pas sa chambre. Comment je me suis aperçue? Arrivé à 5h15, vous arrivez dans une chambre de patients, comment le lit peut être nickel, comme dans un hôtel. Je suis rentrée à la salle de bain, il n'y avait pas sa serviette. Le placard était fermé à clé. Donc je me suis dit, c'est pas sa chambre. Donc j'étais persuadée, Sabine, je suis persuadée à 99% que c'est pas sa chambre.
Mais ça voudrait dire quoi?
Mais parce qu'ils me l'ont mis dans une autre chambre, Sabine.
Non, mais dans quel but? C'est ça que j'essaie de comprendre.
Eh bien, c'est ça, parce qu'ils ne veulent pas voir comment ils les traitent.
Vous pensez que sa chambre n'est pas entretenue?
Pas sa chambre, Sabine. C'était pas sa chambre, Sabine. C'est pour ça que je demande s'il y a des auditeurs qui écoutent le message, là. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qu'est-ce que je peux faire? Je voulais faire venir un huissier à l'improviste. Je suis prête à payer un huissier pour faire venir vraiment à l'improviste et de monter, de monter. Pourquoi les autres familles ont droit de monter à tous les étages, sauf le niveau de l'EHPAD de mon mari? Vous pouvez m'expliquer, Sabine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? C'est impossible, ça. C'est incroyable de voir ça. Mais alors aujourd'hui, je me suis décidée, j'ai dit, il faut que je vous appelle. Ça fait un mois que je me dis, je vous appelle, je vous écoute tout le temps. Parce que je m'endors avec ça, avec des antidépresseurs. J'écoute, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Et là, je sais très bien, Sabine, ce n'est pas sa chambre. Le lit, il était fait au carré. D'accord? Mmh. La salle de bain, je suis rentrée dans la douche. Il y avait juste sa trousse. Ils ont dû transballer sa trousse automatiquement à la dernière minute, parce que j'ai attendu 20 minutes en bas. Ils ont mis la chambre. Je ne sais pas comment a été faite sa chambre. C'était propre ou pas propre. Son lit était fait ou pas fait. Et ça sentait l'urine dans la chambre où ils m'ont emmenée. Ça sentait pas bon du tout. Il y avait la porte qui baissait automatiquement, la fenêtre était fermée au 2e étage, c'est normal, ça je dis rien. La salle de bain, elle était nickel, Sabine. Comment c'est possible? J'ai vu la poubelle, il n'y avait pas un sac plastique dans la poubelle. D'accord? Pas une trace. Dans les toilettes, il y avait 2 rouleaux de papier, Sabine, j'étais jusqu'au fond de regarder les rouleaux de papier, ils n'étaient pas défaits. Comme dans une chambre d'hôtel, vous rentrez dans une chambre d'hôtel en boudant des clés, hop, la chambre est nickel.
Est-ce qu'il y a dans cet EHPAD une assistante sociale ou quelqu'un avec qui vous pourriez discuter?
Incroyable. Non, voilà, il y a un docteur. Ils appellent ça le docteur, je ne me rappelle plus le nom de sa vie. Il y a un docteur qui est là 3 fois par semaine. Quand mon mari était malade, je me suis rendu compte qu'il avait les jambes gonflées il y a 3 semaines, 1 mois. Ils m'ont dit, appelez votre médecin traitant. Je dis, j'ai appelé mon médecin traitant. Il m'a dit, non, c'est le médecin de l'EHPAD. Je n'ai pas à intervenir dans l'EHPAD, moi. Je n'était pas rentré dans les pattes. Alors j'ai appelé, et avant-hier, mon mari avait le rouge, la semaine dernière, il avait le rouge, le monsieur qui me fait descendre mon mari, je m'aperçois qu'il était sans t-shirt, il avait un pull en laine sur la peau, un bonnet sur la tête, alors qu'il fait quand même 30 degrés dans la salle, en bas, il avait un bonnet sur la tête, il m'a tiré, comme si qu'un prisonnier que vous sortez de sa chambre, il m'a tiré des bras comme ça. Je lui ai dit, mais attendez, doucement. Il me dit, oui, vous savez, je lui ai dit, mais attendez, je ne comprends pas. Il me l'a récupéré une demi-heure après. Je lui ai dit, attendez, monsieur David, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'a pas de t-shirt en dessous, il a le pull sur la peau. Il a un pull carrément directement sur la peau. Il a un bonnet sur la tête, il a le rouge. Il a attrapé froid. Comment ça se fait qu'il, là-haut, au deuxième étage, il a dû avoir des courants d'air? Elle me dit, ah, effectivement, bah oui, j'ai pas fait attention, mais je vais le signaler. Vous allez le signaler quand? À 5h du soir? Vous le mettez pas un pull? Il m'a dit, mais vous savez, votre mari est très difficile. Je dis, attendez, monsieur, si je le mets chez vous, c'est que moi, j'ai pas la force de m'occuper de mon mari. Vu le prix que je paye, je dis, c'est pas normal que vous le mettez pas le pull. Je dis, il y a des jeunes filles qui sont là, je viens 3 fois par semaine le voir. Il est tout le temps impeccable, il a toujours un polo, il a les chaussures. Il me demande de mettre des chaussons, vous savez, d'enfant là, que vous enfilez comme ça. Parce que monsieur, ça donne pas la peine d'habiller mon mari. J'ai appelé le directeur, le lendemain, j'ai dit, je suis pas contente de David. Je suis désolée, mais je peux pas lui dire à lui directement, sinon il va le prendre en grippe, mon mari. Il va le prendre. Mais vous voyez, aujourd'hui, ils n'ont pas voulu que je descende.
Élise,
ils n'ont pas voulu me descendre, mon mari.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a un interlocuteur? Je ne vous parle pas de médecin.
Oui,
mais soit,
voilà.
Soit assistante. Soit assistant.
Ben oui,
laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Oui. Soit assistante sociale, soit même un directeur ou une directrice avec qui vous pourriez vous poser pour discuter calmement. Et pas dans des moments d'énervement comme ça.
Pas du tout, Sabine.
Et pourquoi il n'y a personne?
Je vous appelle qu'au niveau du financement.
Mais vous, est-ce que vous pouvez demander un rendez-vous?
Ben, ils vous prennent pas, Sabine. Ils vous prennent pas, soi-disant, il est débordé. Chaque fois que vous appelez le directeur, ça fait 3 semaines que j'ai appelé sans arrêt pour voir le directeur. Vous savez pourquoi il m'a appelé? Parce que j'ai dit que j'arrêtais les virements. Je ferai que des chèques. Ah non, madame. Je dis, je suis désolée. Vous avez mon mari en caution. Vous avez 2 700 € de caution. Je vois pas ce que vous pouvez avoir de plus. Maintenant, je ferai des chèques. Je ferai plus de virements. Je suis désolée parce que vous vous appelez que pour les virements, que vous appelez que pour l'argent. J'arrive pas à avoir un rendez-vous avec un directeur. Je l'ai vu tout à l'heure, qui est descendu tout à l'heure, le directeur. C'est là qu'il m'a dit, madame, vous pouvez pas, je donne pas mon nom, madame, vous pouvez pas voir votre mari aujourd'hui. Vous voyez, je suis sur les nerfs. Il est minuit bientôt, j'arriverai sûrement pas à dormir. Et j'ai passé un week-end la semaine dernière horrible, horrible. Quand j'ai vu que cet homme-là, cet infirmier qui m'a tiré mon mari comme un prisonnier, avec le rouge, et qui me dit qu'à 5h moins quart, il me dit, je me suis... Ah ben oui, ben j'ai pas vu, ah ben je vais le signaler demain. J'imagine s'il a signalé, rien du tout. J'ai appelé le directeur le lendemain. Ah ben d'accord, ben je vais voir. Voilà ce qu'il vous dit.
Alors moi,
bonjour madame, on vous sort le tapis rouge quand vous arrivez, quand vous inscrivez votre personne, la personne que vous avez besoin de placer, ah ben vous avez le tapis rouge, hein. Ah vous avez le tapis rouge, hein. Ah, vous baissez la caution, vous mettez tout, vous avez le tapis rouge. Mais après, alors allez-y, courez après le directeur. Après. Alors moi, je ne veux plus absolument, j'ai rendez-vous maintenant que lundi. Donc,
vous avez rendez-vous avec qui lundi?
Venir avec un huissier.
Vous avez rendez-vous avec qui lundi?
Pour voir mon mari.
Ah, juste pour voir votre mari, oui.
Ah oui, vous ne voyez plus, vous ne voyez plus personne. Vous ne voyez plus personne. Il est toujours en rendez-vous. Tout le temps en rendez-vous. Impossible de les voir. Il y a toujours du monde et moi je m'énerve, donc j'ai pas envie de faire un scandale là-bas parce qu'ils peuvent très bien me dire prenez votre mari. Mais je suis prête à le prendre maintenant, mon mari. C'est pas possible. Vu la somme qu'on paye et que vous voyez comment qu'il est. Vous pouvez pas monter voir dans la chambre et vous voyez les autres familles qui montent dans tous les étages. Au troisième, quatre, ils mettent la blouse, protocole, c'est normal. J'ai la blouse pour voir mon mari en bas avec le bonnet sur la tête, on a tout. Le masque, on a tout. Attendez. C'est quoi ça? Pourquoi les autres familles ont le droit de monter dans tous les étages et moi, j'ai pas le droit de voir mon
ça,
mari?
J'en sais rien, il faudrait voir la version du directeur de l'EHPAD, ça j'en sais rien,
ah ben
je peux pas répondre à ça.
Je peux vous donner le nom d'EHPAD et puis que...
Non, on n'est pas là pour ça.
Voilà, je peux pas
en revanche, ça me paraît une bonne idée de venir avec un huissier pour qu'on fasse un constat, vous aurez déjà une preuve.
Je peux faire venir un huissier, mais sans les prévenir, bien sûr.
Bah oui, ils sont pas obligés de prévenir.
D'accord.
Ce sera déjà une base. Et ensuite, si vous souhaitez reprendre votre mari, il faut à ce moment-là aller voir une assistante sociale pour voir toutes les aides que vous pouvez avoir à la maison. Après.
Voilà, c'est ça, c'est avoir de l'aide à la maison parce que je ne serais pas capable, mon mari.
Bien sûr.
Il n'est pas gros, mais il est assez fort, vous voyez, je veux dire.
Non, puis c'est quand même une charge,
c'est
forcément.
Dur, voilà.
C'est physique, moral, il faut de l'aide.
Hein. Moi, j'ai fait 1m52.
Ah oui, donc, non, il faut de l'aide.
Je sais qu'il faut de l'aide, mais bon, vous imaginez, mais je suis prête. Mais j'étais contente il n'y a pas longtemps, mais là, depuis 15 jours, c'est une catastrophe.
Non, ça me paraît
et
effectivement.
Je suis jalouse, vous voyez, les autres familles montaient dans tous les années, moi, je n'ai pas le droit de voir mon mari, non. J'ai pas le droit de voir dans sa chambre.
J'ai bien compris. Ça me paraît deux démarches effectivement à faire en premier. D'abord, visite avec l'huissier et ensuite programmer la suite avec l'aide d'une assistante sociale.
Hein. D'accord, Sabine. D'accord.
Faites ça déjà et ça va. Et oui, si on a des gens qui ont des conseils à vous donner, on transmettra.
Voilà, je vous donnerai hors antenne mon numéro de portable, comme ça on pourra m'appeler.
Mais je pense que vous serez déjà bien aidé par un constat d'huissier et ensuite par une assistante sociale qui va mettre en place pour vous toutes les aides auxquelles vous avez droit.
D'accord, à la mairie.
À la mairie, oui, tout à fait.
De mon arrondissement, d'accord.
D'accord, Élise.
Je vous remercie.
Bon, je vous souhaite vraiment le meilleur d'arriver à le sortir de là si c'est ce qu'il faut, ou en tout cas à vous faire entendre et à faire entendre vos droits, parce que c'est quand même la moindre des choses.
Merci Sabine. Bonne soirée.
Je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21 75 centimes plus coût du SMS. Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur la libre antenne d'Europe 1, nous sommes donc encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Ça nous laisse une petite heure à partager. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler. Vous faites le 3921, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui attendent vos appels au standard d'Europe 1. Pour réagir par SMS, c'est toujours le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Enfin, pour entrer en contact avec nous par mail, une seule adresse, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Alors, ma question pour mieux vous connaître était la suivante ce soir. Si demain vous pouviez choisir une nouvelle vie, vous aimeriez la passer à faire quoi? Alors, Isabelle me répond: ma nouvelle vie, je l'imaginerais en Sicile, une île que j'aime passionnément. Pour Alice, ce serait une vie dans un corps de ferme à faire des créations, à voir la faune et à voir la flore. Et puis quelqu'un qui n'a pas signé me dit: si j'avais à recommencer ma vie, je profiterais davantage de ma jeunesse avant de penser au mariage. Et je me concentrerai également sur mes études afin de réaliser mes rêves professionnels. Continuez à me répondre si vous avez envie de jouer le jeu ce soir par SMS 739-21 suivi du mot nuit et de votre réponse. Si vous aviez une nouvelle vie, vous aimeriez la passer à faire quoi? Et puis avant d'accueillir Jean-Michel, j'ai un petit appel à lancer. Jacqueline, si vous êtes à l'écoute, Jacqueline, vous avez appelé le 3921 pour qu'on vous rappelle et qu'on puisse discuter. J'allais vous prendre à l'antenne, mais le numéro de téléphone que vous avez laissé à Maxime ne fonctionne pas. Il y a une erreur de numéro. Donc Jacqueline, si vous êtes à l'écoute, rappelez s'il vous plaît le 3921 que je puisse parler avec vous. Merci beaucoup. Et c'est donc Jean-Michel que j'accueille maintenant. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci. Bah, c'était pour revenir à la semaine dernière. Il y a un auditeur qui avait téléphoné par rapport au bonheur.
Alors, resituez-moi un petit peu.
Bah, je pense qu'il avait eu peur du bonheur.
Dites en plus, parce que là, ça me revient pas là tout de suite.
Bah, c'est un auditeur qui avait appelé, je crois qu'il s'appelait Michel, je crois. Et donc... Bah moi, ça m'a interloqué, oui, parce que... Ouais. Et donc, j'avais appelé, je suis tombé sur une vraie collaboratrice et je n'ai pas pu décrocher au moment où elle m'a rappelé. Je devais dormir. Et donc, on m'a rappelé ce week-end.
D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos du bonheur, vous?
Ben oui, que le bonheur m'a fait peur, moi aussi, oui, bien sûr.
Pourquoi?
Moi, j'ai jamais eu de bonheur avec... les femmes qui ont partagé ma vie, il n'y en a pas eu 50 non plus, j'ai pas un tableau de chasse. Non, il y en a deux qui ont partagé ma vie. Bien sûr que le bonheur m'a fait peur, parce que j'ai pas connu de bonheur étant gamin. Et puis malheureusement, j'ai reproduit des schémas complètement inconsciemment avec ma tendre enfance, avec ma jeune enfance, par rapport à mon père qui était violent envers moi.
C'est, et donc, c'est ce que j'allais vous demander, c'est ça le...
Bien sûr.
Le plus dur, c'est la violence physique même.
Ah, bien sûr.
Quand vous avez souffert petit.
Oui, et inconsciemment, j'ai été vers des femmes comme ça.
Dominatrice.
Violente. Ouais. Verbalement et physiquement.
Ouais.
Verbalement et physique. Ouais. Et ensuite, bon, je me suis séparé de ces deux femmes. J'ai rencontré il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, parce qu'avant, je vivais dans le sud-ouest, et maintenant, je suis revenu ici, dans ma région d'origine. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme, une merveilleuse, gentille, douce et tout. Mais là, oui, c'est moi qui ai eu peur. J'ai dit, c'est pas possible, ça peut pas exister, ça. C'est trop beau pour moi. Et c'est moi qui joue au con, quoi,
Ben
en parlant poliment.
le problème, c'est qu'on fuit ce qui nous fait peur. Donc, si le bonheur vous fait peur, vous le fuyez inconsciemment.
Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est idiot. Je pense que c'est idiot de ma part. Mais
Ben, vous l'avez bien analysé. S'il n'y a pas de jugement négatif à porter, c'est une
je
réaction
sais
presque
pas, je
de
sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour accepter ce bonheur. Je sais pas. Je sais pas.
Ben, il faut déjà arriver à vous persuader que vous le méritez. Or, je pense qu'il y a une grande partie de vous qui pense qu'il ne mérite pas d'être heureux, puisqu'on l'a maltraité, qu'on lui a... Le petit garçon que vous étiez, on ne lui a jamais fait croire qu'il avait de la valeur et qu'il avait le droit d'être heureux.
Il n'y a qu'une seule personne qui m'a fait croire et qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, c'était mon grand-père maternel.
Oui.
Hier soir, vous posiez une question par rapport à ce qu'on voulait faire comme métier. Et dites-vous bien qu'à 7 ans, moi, je savais, 5-6 ans, je savais déjà ce que je voulais faire comme métier d'horticulteur. C'est mon grand-père maternel qui m'a transmis cette passion
Oui.
et je l'ai appris ce métier. Et oui, je me suis donné à fond parce que j'ai eu mon diplôme. Ils m'en sont très bien. Deux fois, bon, c'est pas bien grave, parce qu'on m'a donné ma chance. Et je pense que les gens qui m'ont donné ma chance me disaient que j'en étais capable. Et oui, je me suis donné la peine d'apprendre ce métier. Et j'ai eu ce diplôme. Et la seule personne qui m'a dit que c'était bien, c'était mon grand-père. Personne ne m'a dit que c'était bien, à
Donc,
part lui. Et puis évidemment, mes professeurs.
ça, c'était du bonheur sur le plan professionnel, alors.
Pardon?
Ça, c'était du bonheur, pour le coup.
Ah ouais.
Ce
Ouais,
bonheur-là, vous ne l'avez pas fui. Vous voyez à quoi ça tient? Parce que quelqu'un, en l'occurrence votre grand-père, vous a dit que vous aviez de la valeur. Il a suffi de ça pour que vous arriviez à croire suffisamment en vous pour y arriver.
malheureusement, cette personne n'est plus présente dans ma vie. Il est décédé en 2004, à 80, pratiquement 98 ans, quoi.
Ah, c'est beau
Donc,
ça,
ah
98 ans. Mais en même
ouais.
temps, qu'il soit là ou pas, ce qui est important, c'est les graines qu'il a semées dans votre cœur.
Elles sont
Je prends la
parties.
métaphore volontairement, évidemment.
Oui, bien sûr, oui, j'ai compris, mais elles sont parties, ces graines. La fleur s'est fanée à la rigueur. Voilà. Pour aller dans votre centre, la fleur s'est fanée.
Oui.
Elle s'est étiolée, je pense. Donc, c'est un peu dur. Et puis en ce moment, particulièrement en ce moment, ouais, avec ce qu'on vit, avec c'est pas évident. C'est très dur, très très dur. J'ai personne autour de moi, je suis voilà, seul, en n'étant pas très grand, et puis ben il y a ce climat complètement démon, je sais pas. On ne sait plus quoi croire, quoi entendre. On est complètement paumé, je pense, en ce moment.
C'est
Et sincèrement,
vrai, c'est vrai.
honnêtement, oui, je pense qu'on est bien paumé, hein. Donc c'est pas. Je pense.
Votre dernière histoire d'amour, Jean-Michel, quand vous me dites j'ai eu peur de ce bonheur-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez craint à ce moment-là?
Qu'est-ce que j'ai craint?
Que ça s'arrête?
Ouais. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr que j'ai eu peur que ça
Ça me
marche.
rappelle cette chanson, vous savez, fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Mais je pense que d'avoir pris conscience de ça devrait déjà quand même vous faire un petit peu avancer.
Même pas.
Ben c'est dommage. Est-ce que vous avez eu envie de vous faire aider peut-être par un thérapeute pour parler de ça et comprendre ce
Je suis
fonctionnement?
suivi par une psychiatre.
Et alors, comment vous travaillez là-dessus?
Ça fait que commencer, donc après,
Ah,
c'est.
bon, c'est déjà un début.
Parce que après, moi, j'en avais un psychiatre, mais qui m'a lâché au début d'année dernière. Ça n'est pas trop. Je sais pas. Là, je sais pas trop comment ça se passe. Je peux pas vous dire.
Parce que comprendre la manière dont on fonctionne, c'est quand même déjà s'offrir la possibilité de changer. Quand on n'est même pas conscient de sa manière d'être et de faire, alors c'est quasiment impossible d'en changer. Quand on commence à prendre conscience qu'il y a un fonctionnement qui ne va pas, parce que bah là, vous avez effectivement un gros, gros problème d'estime de vous, parce qu'on ne vous a jamais dit que vous aviez de la valeur, si vous comprenez ça, alors déjà, il y a une petite lumière qui s'allume et ça veut dire je peux changer ça. Il faut que vous arriviez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'attendre des autres qu'on vous dise que vous avez de la valeur. Il faut arriver à vous le dire à vous-même, ça.
Ben, j'ai du mal.
Ben, je sais bien.
J'ai du mal.
C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail. C'est un travail au long cours avec un thérapeute, ça. Comprendre que ce n'est pas les autres qui vont venir vous dire, vous donner ça, si vous voulez. Est-ce que vous, ça vous viendrait l'idée un matin, par exemple, de vous réveiller et d'aller taper sur l'épaule d'un copain ou de quelqu'un en disant, en fait, j'ai réfléchi, je te donne ta confiance en toi, t'as le droit d'avoir de l'estime et de la confiance pour toi? Ben non, vous ne feriez jamais ça.
Non.
Et bien de la même manière, personne ne viendra jamais le faire pour vous. C'est pas pour rien qu'on dit prendre confiance en soi, c'est à vous d'aller la chercher, d'aller la prendre, cette confiance, de vous dire tous les jours, je suis quelqu'un de bien. Je suis vraiment un type bien, j'ai de la valeur, je crois en moi. Jusqu'à ce que cette petite voix-là remplace toutes les autres qui vous ont dit l'inverse quand vous étiez plus petit.
Même encore à l'heure actuelle. Malheureusement encore.
Qui vous dit encore des choses comme ça aujourd'hui?
Bon, des gens qui me touchent de près, ma famille entre autres.
Et pourquoi ils se permettent ça?
Je sais pas. Ils doivent en tirer sur moi un bénéfice. Ça sera moi uniquement, je peux vous jurer que la bêtise humaine, elle fait mal, elle détruit, mais elle peut tuer. Et je j'en ai la preuve qu'elle peut tuer la bêtise humaine. Parce qu'avec tout ce qu'on a pu me faire, j'ai réussi à me détruire, bien sûr. Consciemment, inconsciemment, je ne sais pas.
Ouais.
Mais bon, j'ai réussi à surmonter tout ça à chaque fois.
C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes encore debout à l'intérieur, et surtout, vous avez un pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres font ou disent. Mais vous pouvez changer, vous, la position que vous prenez par rapport à ça. Vous avez le droit de reculer aussi. Hein. Si on vous crache dessus, vous n'êtes pas obligé de rester juste devant.
Ouais.
Et oui. C'est ça aussi quand on dit prenez soin de vous, c'est aussi ça prendre soin de soi. C'est d'arrêter de se laisser salir par les autres.
C'est ce qu'a dit ma psychiatre, oui.
Ben, elle a bien raison.
C'est ce qu'a dit, oui.
Et de remplacer une fois encore toutes ces voix qui vous ont dit des horreurs avec une autre voix qui est la vôtre et qui va vous dire l'inverse, qui va vous dire vraiment ça tous les jours, je suis quelqu'un de bien.
Parce que quand j'étais, bon, je l'ai connu en milieu hospitalier, voilà. Donc elle s'occupe de moi depuis 3 mois à peu près.
Pardon, vous parlez de qui là, de votre psychiatre?
Oui.
D'accord, oui.
Elle s'occupe de moi depuis 3 mois à peu près.
Oui.
Et donc, elle n'aurait jamais pensé que j'aurais pu supporter tout ça. Parce que bien sûr que je me mets une carapace sur moi. J'ai pas envie de montrer le visage de quelqu'un qui ne va pas bien. J'ai toujours un mot pour plaisanter, j'ai toujours quelque chose pour plaisanter.
Souvent,
mais c'est une carapace.
La force des gens détruits, c'est ça, hein, c'est l'humour.
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'on m'a dit de ne pas perdre mon humour, surtout.
Oui, mais sauf que quand vous êtes avec votre thérapeute, vous avez le droit de montrer l'autre partie de vous.
C'est ce que je fais, bien sûr.
C'est justement le moment ou jamais de le montrer et puis d'aller réparer tout ça. Hein. D'arrêter d'accorder de l'importance aux autres et de vous l'accorder à vous, cette importance-là. Les autres, ils disent ce qu'ils ont à dire, vous savez. Je dis souvent, ce que l'autre dit de moi ne dit rien sur moi, ça en dit long sur lui.
Ouais.
Eh oui. Ce que les autres disent de vous, la manière dont ils vous traitent, ça ne dit rien sur vous, ça en dit très long sur eux.
Mmh. Certains, ces braves gens, des fois, pourraient bien se remettre en question, quoi. Je pense.
Oh, je vais pas vous faire de peine, ce sont rarement ces gens-là qui le font.
Oh, ça, je sais bien qu'ils ne se remettront jamais en question, quoi. Ça, je sais pertinemment et ça fait bien longtemps que je sais.
Mais c'est pas grave, chacun a son chemin à suivre pour apprendre les choses, pour grandir. S'ils n'apprennent pas, s'ils ne grandissent pas, tant pis pour eux. Mais vous allez grandir maintenant, vous allez avancer.
J'espère.
Je vous dis, je pense sincèrement que le fait de prendre conscience de quelque chose, c'est déjà un grand pas en avant.
Ouais.
Quand on est dans le noir, on ne peut pas avancer. Quand on commence à mettre la lumière, on voit ce qu'on fait et on voit où on va. Et on peut rectifier les choses. Quel âge avez-vous? Je ne vous ai pas demandé, Jean-Michel.
53 ans.
Ben vous êtes encore jeune. Il y a plein de belles choses qui vont arriver encore.
Oui, la machine est bien fatiguée. Quoi. Voilà.
Oui, mais elle se répare, la machine.
Cassée de la vie. Je suis cassé de la vie, simplement.
Oui, j'entends bien, mais ça, tout ça, vous pouvez le réparer.
Un peu ce que j'ai encaissé depuis quelques années, ça va être difficile.
Difficile, mais pas impossible. Et en plus, vous savez... Oui, j'ai bien entendu, vous êtes passé par des choses très très dures, très violentes.
Ah oui, même très très dures. Une grave intervention chirurgicale il y a 6 ans. J'ai eu 6 ans en décembre dernier. Voilà. Donc après...
Et en même temps, vous voyez, je suis persuadée que les gens comme vous ont une grande valeur justement parce qu'ils connaissent le prix de la vie et le prix des choses. Et ouais, je parle pas d'argent, évidemment.
Non, non, bien sûr. Il y a des moments où on baisse les bras, bien sûr. Ça arrive que je baisse les bras, bien sûr.
C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous avez surmonté vous a aussi renforcé. Ça vous donne aussi une grande valeur. Vous avez des valeurs, contrairement à tous ces gens-là qui vous traitent n'importe comment. Vous, vous avez vraiment des valeurs. Eux, pas.
Il paraît, oui. Il paraît que j'ai des valeurs.
Et oui.
Et surtout un savoir à transmettre, comme mon grand-père me l'a appris.
Et vous n'auriez pas envie de faire ça, justement ?
Si, je suis inscrit dans une association, dans la ville où j'habite, donc pour transmettre mon savoir au niveau de l'horticulture.
Et bien, vous voyez, ça, c'est déjà très positif.
Bien sûr que c'est positif.
Et je suis persuadée qu'il y a plein de choses positives.
J'ai fait la démarche en début d'année. J'ai fait la démarche en début d'année.
Ok.
Maintenant, j'espère, Inch'Allah, comme dirait l'autre.
Et vous allez voir, c'est un pas après l'autre. Je suis persuadée que vous allez semer des petites graines de bonheur qui vont commencer à pousser sur votre chemin.
Ben, j'espère.
Et vous êtes bien placé pour savoir les cultiver.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que je le sais.
Bon.
Merci, Sabine.
Je vous embrasse très fort, Jean-Michel.
Merci. Merci de ces beaux mots. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça.
Je vous embrasse.
Je l'entends tellement rarement que... Merci, Sabine. Bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir. Bonsoir, Anne-Marie.
Oui, allô, bonsoir, Céline.
Oui, la bienvenue.
Oui, je ne sais pas par où commencer. Bon, j'ai fini l'année 2020, pour moi, ça n'a pas été vraiment du top. Ça a été très dur au niveau émotionnel.
Oui.
D'abord, ça a commencé par le décès de ma mère, le 12 janvier. Mais pendant très longtemps, j'ai été fâchée avec mes parents, je ne voyais plus ma famille.
Mmh.
Et puis, ça faisait quelque temps où j'avais renoué contact avec ma mère. Et du coup, eh ben, autour de ma mère, avec mes sœurs, on s'est retrouvés. Et ça s'est bien passé. Et donc là, on est toujours en lien. Mais bon, émotionnellement, ça a été quand même un gros choc.
C'est les montagnes russes en plus, forcément.
Oui, c'est les montagnes russes.
Mais ce que j'entends, c'est que c'est quand même positif qu'elle soit partie sur une ambiance apaisée, en tout cas.
Tout à fait, mais il faut savoir que toutes les trois, entre-temps, on avait quand même suivi des thérapies.
Oui, j'imagine, oui, bien sûr.
Il y a eu un travail
sur nous. Ça tombe pas du ciel tout seul, ce genre de...
Non. Oui. On se serait retrouvés avant, je pense que ça ne se serait pas si bien passé que ça.
Oui.
Et j'ai terminé l'année avec le décès de mon mari.
Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mon mari refusait de se faire soigner. Ça fait quelques années qu'il traînait. Il avait été hospitalisé. Il doit y avoir 4 ans de ça pour une anémie. Il avait été transfusé. Je voulais qu'il fasse des examens, mais il était très têtu. Il s'occupait. Il n'avait absolument pas confiance aux médecins de ma ville, à l'hôpital. Il faut dire qu'on avait eu pas mal de soucis, que ce soit pour moi, pour mon fils après. On avait eu pas mal de... Bon, ça s'est toujours plus ou moins bien passé.
Ouais.
Et refusé de faire une coloscopie. Et donc, au mois d'avril, il a été opéré d'un cancer. Quoi, il a beaucoup traîné. Et au mois d'avril, on a fait venir plusieurs fois SOS médecin. Et puis après, il a été hospitalisé. Et moi, je rentrais du travail un dimanche. Et le chirurgien m'appelle et m'annonce tout ce qu'ils lui ont enlevé. Et de là, au mois d'avril, après, mon mari, il a nié son cancer, en fait.
Il a quoi, fois. Pardon
il a nié son cancer.
Nié, oui.
Oui, complètement nié.
Oui.
Plusieurs fois, il me disait, je suis rentrée à la clinique pour une histoire de constipation, il m'a trouvé un cancer. Je disais, mais attends, ça ne sort pas du ciel, ce n'est pas le chirurgien qui l'a inventé. Après, il me disait qu'ils avaient mal fait leur boulot. Je dis non, on t'avait prescrit une coloscopie, t'as pas voulu la passer, il s'en rappelait plus. Donc après, j'ai arrêté.
Mm.
Et puis, donc on a, après, on est parti, on avait un peu d'argent, donc on est parti. Il a voulu aller à Perpignan, on est allé à Perpignan. Il a voulu aller à Lille. Lille, c'était sa ville d'origine. On est allé à Lille, il a pu aller sur la tombe de sa marraine, donc, qu'il avait élevée jusqu'à l'âge de ses 3 ans. Il faut dire, quand on s'est rencontrés tous les deux, je pense qu'on était deux grands blessés de la vie.
Oui.
De notre enfance, si ça aurait été, j'aurais été soignée avant, je ne serais jamais mariée avec lui. Mmh. On s'est retrouvés sur nos problèmes, voilà.
Ça faisait un peu écho chez l'un et chez l'autre.
Oui. Pas du tout la même histoire, mais ça faisait écho. Et puis, après de Lille, on est allé chez notre fils. Notre fils, il s'est occupé, il avait mon petit-fils donc avait un problème d'impétigo. Mon mari s'est démené alors qu'il avait des douleurs, etc. Mais il voulait s'occuper de son petit-fils, quoi. C'était le premier aussi. Il s'est donné à fond, puis il voulait toujours se sentir utile aux autres. Et donc, j'avais l'impression que ça allait bien. Et puis, quand on est rentré au mois de septembre, il a passé un PET scan. Il a d'abord passé un scanner. Donc, au scanner, on lui dit rien. Parce qu'avec ses douleurs, moi, je pensais, et lui aussi pensait qu'il y avait des métastases osseuses. Et au scanner, il n'y avait rien. Il envoie tout de suite un message, il téléphone tout de suite à notre fils en lui disant, il n'y a rien. Moi, derrière son dos, j'envoie un message à mon fils en lui disant, attends les résultats.
Attends la suite, oui. Bah oui.
Oui, parce que j'étais sûre qu'il y avait quelque chose. Oui. Et au PET scan, c'était un cancer généralisé, de toute façon. Donc ça, il l'a bien entendu. Moi, j'ai repris mon travail à la rentrée. Et puis après, je me suis arrêtée parce qu'il ne voulait pas rester tout seul. Je me suis arrêtée, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Il est décédé à la maison.
Ça a dû être douloureux.
Ça a été douloureux. Alors, j'ai eu des gros moments de colère. J'ai été beaucoup en colère contre lui parce qu'il ne voulait pas trop que je sorte. D'un côté, je comprenais ses angoisses, mais d'un autre côté, moi, je ne pouvais pas. J'avais l'impression de lui servir à rien parce qu'on ne parlait pas trop. C'était quelqu'un d'assez secret.
Oui.
Et puis à la fin, quand j'ai vu qu'il souffrait, il n'y avait plus de problème, quoi. À la fin, je sortais le matin avec ses bistrots fermés, tout ça. Je buvais mon café dans un square. Je me prenais une heure le matin où je téléphonais, ou etc. Et l'après-midi, je restais avec lui. Mais si j'allais dans une autre pièce, il m'appelait. Mais t'es où ? Et chez nous, c'est tout petit. Je disais, mais tu veux que je sois où ? Donc, je sentais qu'il y avait une angoisse. Il aimait que je sois, en fait, assis à côté de lui.
Et est-ce que est-ce que vous avez pu vous parler avant qu'il s'en aille ? Est-ce qu'il a quand même lâché un peu quelques émotions ?
Non, il n'a lâché aucune émotion. Par contre, au début, mon fils m'a trouvé un peu dur. Il y avait mon fils, parce que moi, longtemps, je lui demandais ce qu'il souhaitait. Donc, au niveau de son enterrement, pour savoir ce qu'il voulait, puisqu'on n'avait pas les mêmes... Nous, on n'était pas très religieux, mais mon mari m'avait quand même emmené à Lourdes. Il priait la Vierge, etc. Donc, je voulais savoir. Donc, là, il a dit ce qu'il voulait. Donc, il voulait un enterrement à l'église. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'il voulait avec notre fils. Mais sinon, ses émotions n'ont jamais.
Non. Et vous dire au revoir posément avant qu'il parte ?
Non.
Non plus.
Alors, il a passé la dernière nuit. La dernière nuit, mon fils était parti le vendredi matin. J'ai bien compris qu'il fuyait, mais c'était inconscient. Parce que quand j'en ai parlé, il m'a dit non, moi je voulais passer Noël avec mes enfants. Je lui ai dit, mais j'ai compris, ma belle-fille n'attendait pas avant le 24 décembre. Puis après, il me dit, mais t'as peut-être raison, mais je ne supportais pas. Et voir mon père comme ça, c'était trop dur.
Ben oui, je comprends, ouais.
Donc, mais je l'ai parfaitement compris. Donc, le vendredi matin, mon mari s'est levé. Quoi, il a fallu plus l'aide pour se lever. Et le vendredi soir, j'ai absolument pas pu le mettre au lit. Et il a passé toute la nuit de vendredi à samedi dans son fauteuil. Il était glacé. Et moi, au départ, je comprenais pas. Il n'arrêtait pas de m'appeler pour que je l'aide à se redresser. Puis à un moment, je l'engueulais. Je disais, mais on va pas y arriver. Je l'ai un peu brusqué jusqu'à 11h du soir. Oui, je l'ai brusqué. Et puis après, j'ai essayé d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent m'aider à le coucher, mais ils m'ont dit qu'ils ne se déplaçaient pas pour ça, que j'avais qu'à appeler le SAMU. Moi, appeler le SAMU, je ne voulais pas le faire hospitaliser. Je n'avais pas compris que c'était la fin. Et il a passé toute sa nuit à dire merci, 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 et à compter. Donc, c'était toute la nuit, c'était merci, merci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, merci, merci. Et je n'ai pas pu savoir à qui il disait merci. Et puis, il s'est parlé. Il me voyait 3 télés, il voulait que je coupe des fils, il n'était pas là. Et le
oui, il y avait un délire là qui se mettait en place.
Oui. Le samedi matin, j'ai appelé l'infirmière libérale. Quoi, j'ai envoyé un SMS pour qu'elle passe en début de sa tournée pour qu'elle m'aide à le coucher. Et il a été agité tout le matin, alors qu'elle m'avait dit de donner son somnifère. Il a été agité tout le matin. Puis vers les 2-3 heures, je lui ai donné à boire. L'infirmière est repassée. On lui a mis un patch et après, il s'est endormi paisiblement. Et moi, j'étais au téléphone avec ma belle-fille. À un moment, elle me dit, dis si t'allais le voir. Et je suis allée le voir, il était décédé.
Comment vous êtes sentie à ce moment-là?
Eh bien, à ce moment-là, j'avais décidé que je lui ferais sa toilette, que je l'habillerais. J'ai appelé le médecin, les pompes funèbres. Donc, j'étais dans... J'ai rien ressenti, en fait. J'ai l'impression de rien avoir ressenti.
Oui, il y a un état d'anesthésie assez fréquent à ce moment-là. C'est pour le cerveau, c'est trop... Et on est dans l'action pour ne pas s'écrouler. En fait, on fait les choses mécaniquement. Hein, c'est ça, on enchaîne tout ce qu'il y a à faire. Dieu sait qu'il y en a à faire. Et c'est comme si on était un robot, quoi.
Tout à fait. Et puis j'avais prévu dans ma tête, pendant que. Bon, avant qu'il décède, je m'étais renseignée aux pompes funèbres. Je m'étais renseignée sur lui, comment il voulait être habillé. Je m'étais dit, tu lui feras sa toilette. Tu le prépareras toi-même. Donc tout le monde me dit, dans mon entourage, t'es courageuse. Je dis, non, ça, je ne veux pas l'entendre. Pour moi, il fallait que je fasse ça. Je pense que c'était ma survie aussi, quelque part.
Il faut qu'on s'accroche à quelque chose. Donc, pour vous, effectivement, c'était ça. Oui, bien sûr.
Pour moi, c'était ça. Pour moi, ce n'était pas du courage. Bon, il faut dire qu'à la base, je suis aide-soignante. Je fais pas beaucoup de... Dans mon service, on n'avait pas énormément de décès. Hein. Donc, ça, je n'avais jamais fait. Je l'ai fait pour la première fois pour mon mari.
Non, mais c'est instinctivement ce qui vous a tenu debout, quoi.
Je pense. Et puis, les projets que j'avais faits. Alors, j'avais l'impression d'être un peu ingrate parce que mon mari, je lui disais, mais de toute façon, moi, je déménage. Je ne reste pas dans cet appartement. Oui. Mon mari, il accumule tout. Et la semaine avant sa mort, là, il y avait mon fils. Et je lui ai dit, mais avec tout ton bazar, ça va me retomber dessus. C'est moi qui vais m'en dépatouiller. Mon fils me faisait des signes. Non, ce n'est pas le moment. Mais je ne pouvais pas me retenir parce que quelque part, je l'en voulais aussi.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'exaspération et de colère contre lui.
Oui, parce que
il
ça
vous a fait supporter beaucoup de choses, oui, c'est ça.
Ben, c'était quelqu'un au caractère très fort. Qui prenait soin de tout le monde, ça, oui. Mais qui avait un caractère très fort. Et quand il avait décidé de ne pas se faire soigner, il ne se faisait pas soigner. Moi, je pouvais dire ce que je voulais. De toute façon, c'était non. Donc, oui, alors j'ai ressenti... Et c'est pour ça que des fois, ça me fait culpabiliser, parce que j'ai ressenti aussi comme un sentiment de liberté, en me disant, ben maintenant, je pourrais aller voir donc mon fils plus tranquillement.
Bien sûr.
Je pourrais m'absenter, je pourrais faire ce que je veux, entre guillemets.
Et pourquoi vous vous sentez coupable de penser ça?
Eh bien, parce que normalement, on doit être triste. Alors là, ce soir, je suis un peu triste, c'est la première fois depuis qu'il est enterré que ça me fait presque pleurer.
Alors, normalement, Dieu sait que c'est un mot que je n'aime pas. Il n'y a aucune normalité dans la vie, vous savez.
Oui,
chacun a sa normalité à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pleuré quand il était à la chambre funéraire. Parce que du coup, j'y allais tous les jours. Des fois, j'y restais même peut-être un peu trop. Et ce qui m'a sauvée aussi, c'est que si vous voulez, après l'enterrement, donc on l'enterrait le 24 décembre, et le 25 décembre, je repartais avec mon fils. Et j'étais chez mon fils avec sa femme et ses petits-enfants. Donc ça m'a fait une coupure avant de revenir à la maison. Mais là, je suis bien entourée. J'ai toujours quelqu'un au téléphone qui prend mes nouvelles, qui vient me voir. Là, aujourd'hui, j'étais chez des amis. Et ce soir, je ne sais pas, j'avais le besoin d'en parler, quoi. De
vous poser pour en parler. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ça fait très longtemps que c'est vous qui vous occupez de tout le monde, et surtout de lui, et que là, d'un seul coup, ça se calme, ça se pose, et ce sont les autres qui s'occupent de vous. Et ça fait du bien aussi. Hein.
Ça fait du bien, mais j'ai du mal. Quand on me dit, si tu as besoin, tu appelles, et ben, je ne peux pas appeler si j'ai besoin.
Et alors, je vais vous poser la question à l'envers. Si une de vos amies venait de perdre son mari, vous appelait en ayant besoin d'aide, vous iriez ou n'iriez pas?
J'irais.
Alors voilà. Pourquoi pour vous ça marche pas? Pourquoi dans l'autre sens ça fonctionnerait pas?
Alors j'ai beaucoup appelé. Il y a quelqu'un que j'ai beaucoup appelé, c'est mon ancienne cadre de service. Et là j'étais chez elle, je suis allée manger chez elle l'autre jour. parce que c'était quelqu'un de très humain, de très empathique, de très... Donc elle m'a beaucoup aidée toute cette période.
Et vous savez que dans 99% des cas, quand on demande de l'aide, quand on a perdu quelqu'un, les gens sont ravis de vous aider.
Ah,
au
oui,
contraire,
oui,
ils sont souvent démunis parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont maladroits parce qu'ils ne savent pas. Donc quand on leur dit « j'ai besoin de ça ou de ça », mais 9 fois sur 10, ils sont ravis de vous tendre la main.
Ah mais je sais, j'ai eu des collègues au téléphone, mais notamment une, jamais j'aurais cru qu'elle m'aurait appelé autant que ça. J'ai été agréablement surprise. J'ai été beaucoup soutenue. Hein. Mais après, je me dis, elles sont toutes plus jeunes que moi. Elles sont mariées, elles ont des enfants. Tu vas pas les déranger sans arrêt aussi. Donc de temps en temps, j'appelle. Quand vraiment je peux plus, j'appelle. Oui.
Bon, quand même.
Mais j'ai pas envie de déranger sans arrêt. Là, je suis contente parce que bon, il faut que je passe la visite médicale, mais je dois reprendre le travail aussi. Donc voilà, ça fera du bien. Et puis, je dois vous dire que là, en ce moment, je trimasse à la maison. J'ai pas peur, mais je n'arrive pas à me coucher. Mais ça fait, je n'arrive jamais à me coucher, donc je m'endors très tard. Donc, j'espère qu'avec le travail, eh ben, je vais retrouver une régularité dans ma vie, quoi.
Mais est-ce que ce problème de sommeil, c'était avant son départ?
Oui, avant son départ.
Oui, donc ça n'est pas lié.
C'est pas lié. Non, ça date de très longtemps. J'ai horreur d'aller me coucher.
C'est encore autre chose, ça. Mais pour en revenir à ce que vous ressentez, si je comprends bien, ce qui vous gêne, c'est cette ambivalence des sentiments.
Oui, voilà. Oui, oui,
c'est comme si dans une grande marmite, il y avait plein de sentiments qui peuvent paraître un peu antinomiques, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement. Vous savez, quand quelqu'un disparaît, on a tendance à toujours parler de ses qualités, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défauts. Hein.
On a
aussi le droit d'être soulagé parce que la personne nous pourrissait la vie ou nous était compliqué. Et on peut avoir un sentiment à la fois de manque, d'amour, de chagrin et de soulagement. Et ça me paraît complètement normal.
D'accord.
La mort n'efface pas tout du jour au lendemain non plus. Hein.
Ah oui, non, mais je sais bien.
Et j'entends bien que la vie n'a pas été facile tous les jours avec lui.
Non, mais d'autre part, il m'a sauvée aussi. Il faut savoir que moi, j'ai fait quand même 2 tentatives de suicide. Donc, j'en avais fait une avant de le connaître.
Oui, d'où l'ambivalence des sentiments, bien sûr. Évidemment.
Voilà. Bon, je suis toujours suivie, hein, mais là, j'ai pas pris de rendez-vous encore parce que ce n'était pas mon planning. Mais je suis toujours suivie. Je vois mon psychiatre. Là, passé un temps, je voyais tous les 15 jours. Là, j'ai reposé à tous les mois. Sans traitement, sans rien. Mais au moins, ça me permettait aussi de parler à quelqu'un de neutre et de dire ce que je ressentais sans avoir peur de jugement.
Bien sûr. Vous savez, nous ne sommes pas en un seul morceau, nous ne sommes pas un bloc de pierre et nous avons le droit d'avoir des sentiments différents en nous. Mais je comprends que c'est difficile à vivre, cette ambivalence, forcément, parce que il y a plein de choses qui se mélangent en même temps dans le cœur et dans l'esprit.
Oui. Voilà.
Par contre, il y a une chose que j'aimerais que vous enleviez tout de suite, c'est la culpabilité. Et je vais vous redire ce que je dis régulièrement quand on parle de ça. Avez-vous fait volontairement quelque chose de répréhensible ou qui aurait pu faire du mal à quelqu'un ou à lui? Non, ben voilà. Donc vous n'êtes coupable de rien.
On est coupable.
Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas faire du mal volontairement, c'est des engueulades de couple.
Oui.
Mais souvent, quand quelqu'un s'en va aussi, très souvent, j'entends dire je me sens coupable de ci, de ça, j'aurais dû, j'aurais pas dû. D'abord, la culpabilité ne change rien du tout. Et ensuite, on est coupable de quelque chose quand on a voulu nuire volontairement. Si on a voulu nuire volontairement à quelqu'un, alors on est coupable. Et là, il y a un autre travail à faire pour se pardonner à soi-même et demander pardon à l'autre, même rétroactivement. Mais tant qu'on n'a pas volontairement cherché à nuire à quelqu'un, on est coupable de rien. Et je ne crois pas que vous ayez volontairement cherché à faire du mal à votre mari.
Ah non. Je pense que je l'aurais fait du mal si j'avais demandé au 15 de venir et qu'il meure sur un brancard. Là, je m'en serais voulu, par contre, énormément.
Et bien donc, vous n'êtes coupable de rien.
Voilà. Non. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai tenu. Je ne me sens même pas coupable de l'avoir, de m'être fâchée, de m'être énervée contre lui la dernière nuit.
Bon.
En début de nuit. Je suis contente de m'être calmée après, par contre, oui.
Bon, c'est bien, donc il n'y a plus de culpabilité en tout cas.
Oui.
Ça ne sert à rien, ça encombre et ça n'a aucun sens.
C'était aussi vis-à-vis de mon fils. J'ai mes petits-enfants qui encore pleurent, alors qui mes petits-enfants, ils sont hyper, hyper sensibles.
Mmh.
Et le deuxième, l'aîné a 7 ans, donc c'était... Mon mari s'était beaucoup attaché à lui, c'était le premier, donc avant, mon fils a eu une petite fille qui est décédée avant, sa première est décédée. Et le deuxième, et ben le garçon qui a 7 ans, mon mari s'était beaucoup attaché à lui, était très proche de lui, et le petit aussi. Et lui, il parle beaucoup, il s'exprime, mais là, il n'a pas beaucoup exprimé de choses. Et mon fils me disait, c'est comme lui ne réalisait pas, comme s'il ne réalisait pas. Alors que son frère, qui a 5 ans, son frère se fâche énormément, puis beaucoup de colère, a du mal à exprimer. Et lui, par contre, il s'est beaucoup exprimé. Et là, dernièrement, il a encore pleuré la nuit. Et c'est son frère qui l'a dit à ses parents, qui a dit le lendemain, ben Raphaël, il a pleuré.
Alors peut-être pourriez-vous à ces deux enfants leur offrir le magnifique livre de Jean-Jacques Charbonnier qui s'appelle « La mort expliquée aux enfants ».
Alors je sais que mon fils a eu pas mal de bouquins que ses collègues lui ont donnés, qui avaient perdu quelqu'un, alors je ne sais pas s'ils ont lu.
Je sais pas quel livre ils ont eu entre les mains, mais en tout cas je vous recommande vivement Jean-Jacques Charbonnier « La mort expliquée aux enfants ».
Jean-Jacques Charbonnier, oui.
La mort expliquée aux enfants. Ça a même été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est sorti en bande dessinée même.
D'accord, mais je réécouterai en podcast et je noterai tout.
Je pense que ça pourrait leur faire du bien pour les aider à s'exprimer.
Et pour les enfants, j'ai autre chose à vous demander aussi. Alors moi, j'ai pris, parce qu'ils n'ont pas pu venir à l'enterrement. Donc mon fils me disait, ils ont pu voir mon mari peut-être 3 semaines avant qu'il décède, ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils habitent dans la région parisienne, quoi. Mmh. Donc ça fait des kilomètres. Ils sont venus peut-être 3 semaines avant. Mais ils n'ont pas pu assister à l'enterrement. Et mon fils me disait, j'ai l'impression que pour eux, il y a quelque chose qui n'est pas fini.
Oui,
et donc nous, on a pris des photos à la chambre funéraire. Et est-ce que c'est opportun de leur les montrer?
Sincèrement, je ne trouve pas.
D'accord.
Ce qui me paraîtrait plus opportun, c'est de faire un acte symbolique qui pourrait marquer. Je ne sais pas forcément lequel. Là, je réfléchis en même temps que je vous parle. Peut-être les amener sur un lieu neutre où ils pourraient planter un arbre en son souvenir, ou peut-être aller sur une rivière, laisser partir un mouchoir ou un foulard, quelque chose qui pouvait lui appartenir. Marquer ça par un acte symbolique dont ils se souviendront, mais qui soit beau, parce que montrer des photos des enfants,
oui,
c'est quand même très très dur.
Mais je sais bien,
et j'ai peur que ça puisse être quand même un traumatisme.
Oui. D'accord.
En revanche, là où je rejoins votre fils, c'est que c'est compliqué de commencer un deuil quand on n'a pas terminé quelque chose, effectivement.
Le fait d'instaurer
quelque chose de vraiment symbolique, d'aller ensemble quelque part, que ce soit dans une forêt, dans un jardin au bord d'une rivière, d'enterrer un galet, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait, pour vous et pour eux, être un petit moment symbolique de recueillement et de deuil qui commence, si vous voulez.
D'accord.
Et vous pouvez même leur demander ce qu'ils ont envie de faire, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez leur dire, est-ce que vous préférez enterrer un galet qui représente papy ou laisser s'envoler sur une rivière un mouchoir à lui, quelque chose. Peut-être que vous le diront directement. Les enfants sont très imaginatifs pour ça.
Non, mais ça, je ne me fais pas de soucis pour leur imagination.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de les emmener au cimetière quand ils viendront?
Ça, c'est à eux de vous le dire s'ils en ont besoin ou pas.
D'accord, parce que moi, j'avais pas trop envie, parce que c'est pas fini. Il faut que je mette la pierre tombale et j'ai peur qu'un petit terre.
Non. Ne le faites pas tant que c'est pas fini et faites-le uniquement s'ils vous le demandent. Même si c'est plus tard. N'obligez jamais des enfants à ça.
Ah non, mais tout à fait.
L'acte symbolique pour un enfant, c'est vraiment un joli chemin.
Ou alors, dans ces cas-là aussi, je pensais à une chose. Mon mari avait beaucoup de cactus, donc il a pu s'en occuper. Est-ce que ça serait pas mal que je leur achète un cactus et leur dire, vous l'emmenez à la maison, un petit? Et ça peut symboliser le papier.
Alors, ça pourrait être bien. Là où il faut être prudent, c'est que ça peut mourir, un cactus. S'il y a trop d'eau, s'il y a trop ceci, trop cela, attention qu'il ne s'attache pas à quelque chose qui pourrait périr à nouveau et que ça pourrait virer au drame.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que je préfère un objet qui ça soit quelque chose qui reste à ce moment-là, vous voyez.
D'accord.
C'est un peu fragile, un cactus, et ça pourrait facilement devenir très compliqué s'il faut un report là-dessus.
Ouais. Et justement, l'autre jour, la samedi dernier, j'étais avec un cousin et on a un coup de fil et c'est l'aîné, David, qui me demande comment j'allais, et puis il me dit, papy, comment ça va? Et là, je me suis retrouvée complètement désarçonnée. Et je lui dis, mais enfin, David, tu sais bien que papy, parce que je ne voulais pas lui raconter l'histoire, je ne voulais pas dire ça va. Je lui dis, mais tu sais bien, papy, que papy n'est plus là. pardon. Et il me dit oui, puis il est reparti jouer. Et non, il me dit oui, mais je voulais savoir là où il était, comment ça allait. Et son frère l'a interpellé, et son frère lui a dit, mais tu sais bien que papy, il est parti, il est au ciel. Mmh. Et après, j'ai eu mon fils, et mon fils m'a dit, mais c'est David qui... Et il a demandé à t'appeler, et j'ai été complètement étonnée. Et il me dit, je ne m'attendais pas du tout aussi à ce qu'il te dise. Et après, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit, bah, écoute, il est retourné jouer. Il y avait des copines à la maison, ils sont retournés jouer.
Mais pour les enfants, de manière générale, abordent la mort avec beaucoup plus de simplicité oui. que nous.
Mmh.
Comme ouais, si c'était quelque chose qu'ils avaient déjà intégré inconsciemment. C'est plus tard que ça se complique.
La maman leur a expliqué, donc au deuxième, qui lui avait demandé, elle lui a expliqué qu'il partait dans le ciel, mais qu'il les verrait toujours. Quoi, elle a essayé de se débrouiller tant bien que mal. Et ça, ça avait, son explication, ma belle-fille, avait eu l'air de rassurer l'enfant.
Bon, bah, si elle a su trouver les bons mots pour son enfant,
oui,
c'est très
oui,
bien.
Oui.
Ça, c'est une bonne chose.
Oui. C'est vraiment bien. Et j'ai une autre question qui n'est pas du tout en rapport avec ça.
Oui.
On se demande si les petits ne sont pas au potentiel.
Mmh.
Avec une sensibilité dans leur réaction exacerbée. Mon fils n'a pas du tout envie de les faire tester, du moins pas pour l'école, parce qu'il ne veut pas qu'ils soient dans une case.
Je suis assez d'accord avec ça.
Oui, mais par contre, pour nous, on se demandait s'il n'y aurait pas des livres qui puissent nous aider dans leur comportement et comment les aborder.
Alors ça, je vous avoue que spontanément comme ça, je n'ai pas d'ouvrage qui me vient à l'esprit.
Oui.
Mmh. Comment les aborder ça? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à votre attitude par rapport à eux?
Bah, oui, notamment donc l'aîné parle beaucoup, sauf là où il dit pas trop. Et le deuxième, c'était surtout le deuxième. Le deuxième, c'est il est très renfermé. Quand il y a quelque chose dans sa quand il est frustré ou quand il perd ou il est capable de piquer des grosses colères. Et sans se calmer, quand on lui demande pourquoi, il répond « je sais pas ». Il a vraiment du mal à poser. En même temps, c'est un gamin qui enregistre tout. Moi, il m'a eu fait lire il me cite tous les noms des dinosaures, les poissons, des trucs. Mmh. Moi, je suis complètement perdue. Là, maintenant, il en était à ses Pokémon. J'avais acheté une petite encyclopédie, c'est tous ces noms. Quoi, il enregistre vraiment d'une manière. Et les deux, j'ai l'impression qu'ils ont une sensibilité exacerbée. Et c'est comment... la petite, elle est trop petite, pour vous dire. La petite,
le petit dont vous parlez, il a 5 ans, c'est ça?
Oui.
Moi, il y a un livre auquel je pense qui n'a pas de lien avec le haut potentiel, mais qui a un lien avec les émotions et qui est intéressant parce que ça peut être un enfant qui va avoir du mal à exprimer ses émotions.
Oui.
Et il faut le plus rapidement possible lui apprendre à les exprimer pour pas que ça le bouffe à l'intérieur. Oui. Il y a un très joli livre qui s'appelle Petites histoires hypnotiques du soir.
Petites histoires hypnotiques du soir.
Qui a été écrit par Sabrina Ferret. Et ce sont plein de contes métaphoriques qui permettent à l'enfant d'exprimer quelque chose. Que ce soit la colère, d'accord. la jalousie, la peur, des tas de choses comme ça. Bah, c'est une manière de leur ouvrir l'esprit à l'expression des émotions.
Oui, bah, c'est un gamin qui a toujours peur d'être abandonné, qui veut ses deux parents avec lui, qui ne veut pas quitter la maison.
Bah, à 5 ans, ce n'est pas non plus extrêmement rare.
Oui, mais bon, il a toujours eu ses deux parents. Quoi. Il y en a un qui est prof et l'autre... Bon, il les a toujours eu. La belle-fille, longtemps, n'a pas travaillé. Donc, voilà.
Bah, je pense que si les parents ne souhaitent pas les faire tester, une fois de plus, moi, je les rejoins assez là-dessus.
Oui,
je pense que simplement être attentive à leur manière de fonctionner, être à leur écoute, peut-être un peu plus vigilante, et surtout leur apprendre à exprimer leurs émotions. Et les aider, leur apprendre comment on exprime une émotion. Pourquoi une émotion est normale? Pourquoi il est en colère? Comment il peut exprimer sa colère? Il a le droit de le faire.
Vous voyez, des tas de choses comme ça. D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'éducation positive.
Ok, d'accord.
Avant d'essayer de les mettre dans des cases qui seront peut-être compliquées ensuite à gérer.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'avec l'école, il a eu des problèmes. Maintenant, ça va mieux. Ils ont trouvé un système, ils lui mettent des bonhommes, si ça va bien, ben le bonhomme il sourit, si ça s'est mal passé, voilà, il ne sourit pas ou il est d'une autre couleur, je ne sais plus.
Donc si je comprends bien,
c'est
l'intermédiaire, c'est l'enfant du milieu.
Oui, ben, c'est le deuxième, ils sont 3, et moi j'ai toujours dit à mon fils, parce que moi je suis la deuxième aussi dans une fratrie de 3, et j'ai toujours dit que le deuxième c'était la plus mauvaise place.
On le dit, on dit que c'est une place un peu plus difficile à trouver.
Oui. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'avec mes sœurs, je me suis éloignée aussi. Je ne trouvais pas ma place. Puis bon, il y avait eu de gros problèmes. On nous a fait de gros problèmes dans ma famille. Donc voilà, donc je ne trouvais plus ma place.
En tout cas, c'est sûr, ça, aussi, positif que ce chapitre-là soit apaisé maintenant.
Oui, mais là aussi, j'avais l'impression, mais c'est vrai que ce soit que la maladie avait gagné mon mari, qu'il n'avait plus l'énergie d'avant, mais j'ai eu l'impression un peu de le trahir. Mais ça, j'ai eu le temps de lui dire que de toute façon, lui faisait ce qu'il voulait, pensait ce qu'il voulait, mais que moi, là, c'était comme ça. Que les histoires du passé, je n'y revenais plus dessus.
Oui.
Que j'avais besoin de tourner la page. Mais là aussi, il faut que je retrouve ma place dans la famille. Et des fois, ce n'est pas évident. Vous voyez, il y a tout ça, toutes ces émotions de cette année qui sont...
Et oui, vous aussi, il faudrait que vous arriviez à les exprimer, ces émotions.
Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors moi, je me noie dans des séries, je me noie dans beaucoup de choses, mais j'évite d'aller trop en profondeur.
Est-ce que vous pourriez créer peut-être une petite... soit une boîte à photos, une boîte à souvenirs, ou un petit arbre généalogique avec des émotions, justement, des choses comme ça. Essayez de centraliser tout ça, à la fois les souvenirs et les émotions.
Les souvenirs, ben j'ai beaucoup de photos, c'est vrai que je ne m'y replonge pas. Mon fils veut aller dans tout ce qui est généalogie, moi ça ne m'intéresse pas. Il veut recontacter des membres de la famille de mon mari qu'on ne
voit
pas.
Ça ne vous
dit rien? Moi ça ne me dit rien. Alors moi j'ai l'impression, si vous voulez, d'être quelqu'un qui n'a pas de passé, pas de racines. Et que je n'ai pas envie de le creuser. Soit c'est une protection, je ne sais pas.
Vous avez forcément un passé, des racines, donc effectivement, si vous n'en avez pas envie... Maintenant, personne ne vous oblige à y aller, hein, si vous n'avez pas envie de le faire. Ce n'est pas non plus,
une obligation. Non, mais c'est ce que j'ai dit à mon fils. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas envie. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'ai pas envie. Vous voyez, quand le peu que j'ai pu être disponible pour la maison de ma mère, mes soeurs ont retrouvé toutes mes lettres d'adolescence. Et elles m'ont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Je leur ai dit, vous jetez. Et je n'ai pas voulu m'y replonger. Et j'ai pas envie. J'ai envie de vivre les choses de maintenant. Le passé, j'ai plus envie. Mes émotions, des fois, j'ai l'impression, oui, que je me protège pour pas sombrer. J'étais en dépression pendant 2 ans et c'est trop dur à remonter.
Vous avez fait une dépression de 2 ans, c'est ça que vous me dites?
Oui, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression en 2000, quand j'ai fait ma tentative de suicide. J'ai été arrêtée pratiquement 2 ans. Là, mon psychiatre m'a dit, il y a quelque temps de ça, il m'a dit, j'aurais jamais cru que vous repreniez le boulot, vous avez frôlé l'invalidité. Ouais. Et j'ai pas envie de ressombrer.
Je comprends tout à fait, et je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller dans le passé, et c'est votre droit. En revanche, je serais un peu plus vigilante sur les émotions. Ce n'est pas en les étouffant qu'elles vont disparaître. Une émotion, fois encore, je vous le répète, une émotion est faite pour être acceptée, exprimée, traversée et dépassée.
Alors, j'ai eu des émotions avec mon mari. Hein. Quand le chirurgien m'a téléphoné au mois d'avril, après, quand j'ai raccroché, je l'ai engueulé, mon mari. Quoi. J'étais tout seul à la maison, mais j'ai gueulé. Quoi. Je l'ai insulté, j'ai gueulé. À la chambre funéraire, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup passé de musique que lui aimait et j'ai beaucoup pleuré. Et je pense que j'ai tout exprimé là. C'est sorti, oui. Oui, c'est sorti. Le jour de l'enterrement aussi un peu, mais c'était plus parce que je me sentais entourée, que ça me faisait du bien, donc du relâchement.
Oui. Mais quand je vous écoute, je vous trouve plutôt dans l'axe, hein, plutôt bien posé. On sent une fragilité, mais en même temps, on sent une grande force en vous, quelque chose qui s'est comme rééquilibré.
Mais je pense que toutes ces années, là, une fois, j'avais dit au psychiatre, mais ça ne sert à rien que je continue à venir vous voir. Il m'avait dit, si, je suis votre béquille.
C'est mignon.
Et donc, j'ai continué. Bon, j'y restais un quart d'heure, une fois par mois, mais ça me suffisait.
Mais, au bout d'un moment, on apprend à marcher sans béquille aussi. Hein.
Oui, mais ça me fait du bien d'aller le voir. Et là, encore plus maintenant, quoi.
Oui,
évidemment. Je vais reprendre mon rendez-vous. Et puis, c'est quelqu'un avec qui... Parce qu'avant, j'avais déjà essayé avant de voir quelqu'un et ça n'avait jamais fonctionné. Et heureusement, avec lui, ça fonctionne.
Bon, bah, tant mieux. C'est une bonne chose.
Mais c'est une bonne chose. C'est pour ça que je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Mais je vous écoute beaucoup en podcast aussi. J'écoute et ce soir, j'avais besoin de votre avis, d'un autre avis, d'une autre écoute.
Mais écoute, j'espère que j'étais là pour ça, Anne-Marie.
Oui, vous m'avez bien... Je vous en remercie. Je réécouterai pour le livre en podcast, justement.
Les deux titres que je vous ai donnés tout à l'heure, oui, tout à fait.
Oui, oui, oui. J'entends la petite musique.
Et oui, il va déjà être 1h du matin. C'est fou comme ça passe vite, hein, quand on, quand on est ensemble.
Ouais, je vous remercie.
J'envoie une douce pensée à votre mari et je me permets de vous embrasser très, très fort.
Mais je vous remercie. Bonsoir.
Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Et oui, la Libre Antenne, c'est terminé pour ce soir. Il est temps de refermer la page de notre émission. Merci à tous d'avoir été là de chaque côté du poste. Je vous retrouve, comme d'habitude, demain soir à partir de 23h pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles confidences. Et d'ici là, je vous quitte avec ma phrase du jour. Pendant longtemps, j'ai attendu que ma vie change. Mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que moi, je change. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne nuit et à demain.